Laudetur Jesus Christus.
L'Arménie de nouveau sous très haute tension. Le Premier ministre Nicole Pachinian a limogé ce matin son chef d'état-major, accusant l'armée de tentative de coup d'état. Le chef du gouvernement qui manifeste en ce moment même aux côtés de ses partisans à Yerevan. L'opposition appelle, elle, à une contre-manifestation. Nous retrouvons notre correspondante sur place au début de ce journal. En Birmanie, la contestation du pouvoir continue. Elle aussi, des partisans de la junte et des manifestants anti-gouvernementaux se sont affrontés ce jeudi à Rangoon, alors que la pression internationale est de plus en plus grande sur le régime militaire. Dans ce journal également, nous reviendrons sur ce décret signé hier par Joe Biden, le président américain qui veut sécuriser la chaîne d'approvisionnement de biens dits essentiels. Une mesure, nous le verrons, pour brider l'hégémonie chinoise. Et puis en Allemagne, une première hier avec la condamnation de cet ancien agent des services de renseignement syrien accusé de complicité de crimes contre l'humanité. Il a été condamné à 4 ans et demi de prison.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, une journée pleine de tensions en Arménie. Le Premier ministre Nicole Pachinian a limogé ce matin le chef d'état-major de l'armée après l'avoir accusé d'une tentative de coup d'état. Le chef du gouvernement qui est descendu ce matin dans les rues de Yerevan, la capitale, avec des centaines de partisans. Retour sur ces dernières heures de tensions et ce bras de fer entre le pouvoir et l'armée avec notre correspondante en Arménie, Asmik Karakelian.
L'état-major général des forces armées arméniennes en tête de son chef Onik Gasparyan jeudi matin a déclaré que dans la situation de crise est fatale pour le peuple arménien, le premier ministre Nikol Pachinian et son gouvernement ne sont plus en mesure de prendre des décisions adéquates pour le sort du pays. Quelques minutes après, sur sa page Facebook, le premier ministre arménien a considéré cette annonce comme une tentative de coup d'état militaire et a invité tous ses partisans à se rassembler sur la place de la République à Yerevan. Il a limogé Onik Gasparyan. La veille, il avait licencié le vice-chef de l'état-major général. Plusieurs citoyens ont vu dans cette annonce que le premier ministre arménien a fait un appel de la guerre civile. Certains membres de l'opposition se sont rassemblés auprès du bâtiment général de la police et demandé que la police suive aussi à l'exemple de l'état-major général des forces armées pour empêcher son premier ministre de détruire définitivement le pays. Il est à noter qu'il y a deux jours, dans son entretien, Nicole Pachinian avait dit que les missiles les plus avancés d'Arménie de fabrication russe, Iskander, se sont avérés inutiles pendant la récente guerre avec l'Azerbaïdjan. Cette annonce a vu beaucoup de critiques en Arménie ainsi qu'en Russie. À Yerevan, Asmik Karakelian pour Radio Vatican.
Et l'opposition arménienne a appelé à son tour, elle a contre-manifesté dans l'après-midi, soulignant que le Premier ministre Nicole Pachinian avait une dernière chance pour un départ pacifique du pouvoir. La Russie, elle, se dit préoccupée par la situation politique en Arménie et appelé au calme. La Turquie, elle, a dénoncé une tentative de putsch à Yerevan. Nous reviendrons évidemment à 18h plus en détail sur la suite de ces événements en Arménie. Un parfum de guerre froide dans les mots de Vladimir Poutine. Nous sommes confrontés à une politique dite d'endiguement de la Russie, a confié hier le président russe devant le congrès annuel du FSB, l'une des organisations qui ont succédé au KGB qu'il a un temps dirigé. Selon le président russe, l'Occident tente d'enchaîner son pays avec des sanctions économiques, mais aussi d'affaiblir la Russie et de la contrôler de l'extérieur. Fin de citation. Les relations entre Moscou et l'Allemagne, elles ne risquent en tout cas pas de se réchauffer de sitôt après ces accusations selon lesquelles un ressortissant allemand aurait transmis des coordonnées sur le Bundestag à la Russie. Selon le parquet fédéral allemand, l'homme travaillait pour une entreprise mandatée à plusieurs reprises par le Parlement allemand pour y effectuer des contrôles de ses ordinateurs portables et il avait à ce titre accès à des fichiers PDF contenant des plans des propriétés de la chambre basse du Parlement allemand. Autre tension politique à l'autre bout de la planète, cette fois-ci en Birmanie, où des affrontements ont eu lieu aujourd'hui entre partisans de la junte et manifestants anti-gouvernementaux. Trois semaines après le putsch militaire dans le pays, la colère est toujours forte dans les rues de Rangoon, la principale ville du pays, Marine Henriot.
Oui, Olivier, des centaines de partisans, des militaires se sont rassemblés aujourd'hui à Rangoon. Les autorités leur avaient donné accès à un carrefour clé de la ville, jusqu'ici interdit aux manifestants contre le coup d'État. De quoi attiser la colère de nombreux riverains. Ils ont commencé à frapper sur des casseroles et sur des marmites. Un acte devenu symbole de la résistance anti-junte militaire. Vers midi, des affrontements ont eu lieu vers la gare centrale de Rangoon. Les militants pro-militaires étaient munis de tuyaux et de lance-pierres. Certains habitants ont riposté, munis de couteaux ou de matraques. Lorsque les policiers sont arrivés, femmes et enfants se sont tenus par le bras de manière à créer un bouclier humain. La police a finalement écarté les assaillants. Autre acteur des manifestations, le réseau social Facebook. L'entreprise annonce fermer tous les comptes liés à l'armée birmane en raison de l'utilisation par la junte de violences meurtrières contre les manifestants, selon Facebook. La Banque mondiale, de son côté, annonce également des sanctions contre la junte. Toutes les aides versées à la Birmanie, 900 millions de dollars par exemple en 2020, sont suspendues.
Merci beaucoup Marine Henriot. Et la pression internationale qui se poursuit après des sanctions annoncées contre des militaires de la junte, ce sont cette fois-ci des ONG qui demandent un embargo sur les armes à destination de la Birmanie. 137 ONG ont signé un texte commun de plus d'une trentaine de pays. Un nouveau sommet européen en ligne ce jeudi, nouveau sommet consacré à la pandémie de Covid et dont l'un des objectifs est d'accélérer la campagne de vaccination. Les stratégies divergent largement selon les différents pays de l'Union, que ce soit les restrictions aux frontières ou encore la mise en place d'un passeport vaccinal. Les formes, elles, du Covid long sont une priorité pour l'Organisation mondiale de la santé. Les personnes qui souffrent de symptômes pendant une longue période doivent être entendues si nous voulons comprendre les conséquences à long terme et la guérison du virus, a précisé ce matin l'OMS. Aux États-Unis, Joe Biden s'attaque aux pénuries de biens dits essentiels. Cela va des puces électroniques aux produits pharmaceutiques, en passant par les terres rares. Le président américain a signé hier un décret visant à passer au crible les chaînes d'approvisionnement. Un décret qui vise à garantir surtout la primauté de son pays face aux concurrents chinois. À New York, Loïc Loury.
Des chaînes d'approvisionnement plus sûres pour les produits critiques et essentiels, voilà l'objectif du décret signé hier, selon la Maison-Blanche. Ces dernières années, dit l'administration, les ménages, les travailleurs, les entreprises ont de plus en plus souffert de leur pénurie. Et en effet, le secteur automobile notamment a été affecté l'an dernier par la crise mondiale des semi-conducteurs. Washington évoque aussi des manques inacceptables d'équipements de protection dans le secteur de la santé au début de la pandémie. Pour y remédier, les produits en question seront identifiés, à charge ensuite aux ministères et organismes fédéraux de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Mais plus que des produits essentiels, il s'agit de produits stratégiques, ceux qui représentent l'avenir dans les communications, la défense ou la santé, et pour lesquels les États-Unis dépendent de l'étranger. C'est le cas des terres rares, un quasi-monopole de Pékin, et si la Chine n'est pas citée, c'est notamment d'elle dont il s'agit avec ce décret qui vise à garantir le leadership, en particulier technologique, des États-Unis. Autre méthode, mais objectif similaire à celui du bras de fer engagé par Donald Trump avec Pékin. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
En France, l'autorité de sûreté nucléaire prolonge l'espérance de vie des réacteurs de 40 à 50 ans. 32 réacteurs de 900 MW, les plus anciens du parc français, sont concernés, mis en service pour l'essentiel dans les années 80. L'ASN a demandé à l'opérateur EDF de réaliser néanmoins les travaux nécessaires pour maintenir la sécurité sur ces sites. C'est un procès qui fera date et c'est une première. Un ancien membre du régime syrien a été condamné par la justice pour des crimes commis en Syrie. Hier, le tribunal de grande instance de Koblenz, en Allemagne, a reconnu cet homme coupable de complicité de crimes contre l'humanité. Les précisions à Berlin de Delphine Nerbollier.
Eyad A est un ancien membre des services de renseignement syriens. À l'automne 2011, il participe à l'arrestation d'une trentaine de manifestants au régime de Bachar el-Assad. Il les transfère à la prison Al-Khatib, près de Damas. Ce centre de détention est connu comme un centre de torture du régime syrien. Un an plus tard, Eyad A déserte et fuit la Syrie. Il trouvera refuge en Allemagne, comme des milliers d'autres Syriens. Or, c'est en Allemagne que son sort vacille. Il est en effet reconnu par d'anciens prisonniers, des plaintes sont déposées et son procès lancé. Depuis hier, il est le premier membre du régime condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Son chef à la prison, Al-Khatib, est lui aussi poursuivi, mais son procès se poursuit. Pour les Syriens d'Allemagne, cette première condamnation est un symbole. À défaut de pouvoir poursuivre en justice en Syrie les vrais responsables de ces crimes, d'autres procédures de ce genre pourraient être lancées dans d'autres pays. C'est tout du moins l'espoir de nombreux Syriens en exil. Berlin, Delphine Darbelier pour Radio Vatican.
Les responsables de la commission des épiscopats de l'Union européenne, la COMECE, adressent un message au président du Parlement européen, David Sassoli, faisant part de leurs préoccupations au sujet de l'avortement en Pologne. Ils dénoncent notamment la référence à un prétendu droit à l'avortement qui n'existe nulle part dans les textes et traités de l'Union européenne. Ils y rappellent que l'Église catholique, qui cherche à soutenir les femmes dans des situations de vie résultant de grossesses difficiles ou non désirées, demande que toute vie à venir bénéficie de protection et de soins. Plus de détails sur vaticannews.fr. VA. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Vous serez en compagnie de Marine Henriot. Très bel après-midi.